Et la phase de la planque, moi c'est toujours ce que j'ai détesté. J'ai détesté faire ça. Donc voilà, faut s'imaginer, tu te retrouves pendant 48 heures dans un lieu sans eau, sans électricité.
Vivre en squat. Partager le pain, la douleur et un lit. Un podcast de Zoé Banarat.
Je m'appelle Théo, j'ai 27 ans et le squat et tout ce qui va autour a pris 3 ans de ma vie, je dirais. De 2018 à 2020. Bon, déjà quand j'étais ado, c'était là où j'allais faire la fête, où c'était un des lieux de sociabilité que je fréquentais beaucoup. En 2018, je suis revenu de plusieurs années à vivre en Amérique latine, en Colombie et au Mexique notamment. Je me suis fait expulser de Colombie pour des raisons de militantisme là-bas. Et en fait, ça a été le moment de mon expulsion où j'ai été dans cette fameuse zone aéroport dans lequel toutes les personnes qui sont en situation irrégulière et sont en voie d'être expulsées du pays se retrouvent. Qu'il y a eu une forme un peu de prise de conscience, dans le sens où moi j'étais un mec blanc, genre dans un pays latino-américain. Et que moi, ça a été un moment peut-être un petit peu traumatisant pour ma petite sensibilité à cette époque-là. Je crois qu'il y a eu un espèce de parallèle très fort à partir de ce moment-là, de me dire, mais putain, mais en fait, comment ça se passe quand t'es un mec qui vient d'un pays qui a été colonisé et dans lequel il y a un rapport de racisme structurel vis-à-vis de toi dans un pays comme la France. Et je me suis dit en rentrant en France que c'était quelque chose pour lequel j'avais envie de me battre. Je savais pas trop comment le faire. Et en revenant, j'étais sans logement, un peu désœuvré, donc je recontacte des amis à moi de cette époque-là, mes très très bons amis, et qui vivaient du coup dans ce lieu qui s'appelle la Villa. Et c'est une location qui a fini par devenir quelque chose qui se rapproche d'un squat. En fait, quand les copains sont arrivés là-bas, etc., c'était une grande maison de 300 mètres carrés. Un copain a débarqué là-bas suite à une annonce sur le Bon Coin. Et ensuite, au fur et à mesure, il a commencé à ramener tous ses copains. Alors à quoi ça ressemble? La villa, c'est un endroit un peu féerique en vrai, hein, parce que faut s'imaginer une énorme maison bourgeoise qui a dû être bâtie dans les années 30, un grand jardin, un très très grand jardin, avec un portail comme ça aussi, pareil, en fer forgé, un énorme jardin avec une mare, plusieurs arbres avec des essences plutôt rares, genre un ginkgo biloba, un cèdre du Liban, vraiment le jardin était vraiment magnifique, et au milieu de ce jardin, du coup, une grande villa, comme le nom l'indique. Tu rentres depuis le portail, tu passes dans le jardin, il y a une petite allée pavée, et au bout de l'allée pavée, ça rentre sur un escalier en colimaçon qui arrive sur une grosse terrasse qui fait tout le tour de la maison. Tu rentres un énorme couloir avec sur la gauche un grand salon, un peu en amphithéâtre comme ça, avec qui était tout vitré comme ça, c'était magnifique, on aurait dit un vaisseau spatial parfois. Et ensuite, bah, des chambres. Et puis en haut, le dernier étage, il y avait un espèce de studio privatif, quoi, avec une énorme chambre et avec tout le tour où c'est les combles et dans lequel ça a été un des premiers lieux qu'on a utilisé vraiment pour de l'hébergement en urgence, quoi, et dans lequel on a fait un gros dortoir, quoi. Voilà, plus ou moins à quoi ressemblait la villa. Après, à partir du moment où on a commencé à être de plus en plus, il y a aussi des copines qui venaient vivre, par exemple, avec leur camion, et du coup, qui étaient dans le jardin avec leur camion. Il y a une copine qui avait mis sa caravane à un endroit. Il y a un copain aussi qui avait, à une époque, qui avait mis une tente, une grande tente. Voilà, il dormait là-dedans.
Et c'est chez toi, à ce moment-là ?
Ouais, c'est chez moi, ouais. Ouais, carrément. Ah bah oui. J'en ai pas d'autres. Enfin, moi j'ai toujours aimé vivre en collectif, donc le fait de vivre à beaucoup m'a jamais trop dérangé. Et en recroisant un peu tous ces amis et tout ce réseau un peu du milieu squat militant un peu de Lyon à l'époque, la question du squat m'est apparue comme étant quelque chose en tout cas dans lequel je pouvais m'investir en tout cas pour apporter une aide aux personnes en situation d'exil. Et c'est à partir du mouvement étudiant de 2018 qu'on a commencé à repenser un peu cette question de l'habitat et de comment à faire de l'hébergement. Nous, surtout des mineurs, surtout des personnes mineures en situation de reconnaissance de minorité par l'État français. Et avec le mouvement étudiant, on a rencontré les personnes qui avaient animé à l'époque l'occupation de l'amphi à la fac, qui a mené à l'ouverture de l'amphi Z, du coup, qui était à cette époque-là le plus gros squat de migrants de France. Et je pense qu'à cette époque-là, il y avait un peu un espèce de truc de moi qui cherchait encore pas mal un peu qui j'étais, mon identité, etc. Où j'avais une forme d'admiration un peu pour ceux qui se relevaient les manches, quoi, on va dire, et qui allaient un peu dans le concret. J'ai jamais été quelqu'un de très courageux. Et donc du coup, voilà, j'en suis venu en fait à me faire très pote avec un gars qui s'appelait Joko, qui lui était très très chaud sur les ouvertures, etc. Et je finis par l'accompagner de plus en plus dans des missions nocturnes et à prendre un peu à bras le corps, à partir de l'expulsion de l'amphi Z, un peu toutes les tâches qui correspondaient à ce que c'est concrètement ouvrir un squat. À cette époque-là, je marchais beaucoup et je faisais beaucoup de vélo, je marchais beaucoup, donc j'avais une forme de quadrillage un peu de la ville et j'aimais beaucoup repérer des bâtiments vides. Du coup, la première étape, effectivement, c'est repérer un lieu. Pour repérer un lieu, il y a plusieurs manières de le faire, mais généralement, en fait, il y a pas mal de signes avant-coureurs. Ensuite, une fois qu'on a la certitude qu'un lieu est vraiment vide, on va commencer à faire des missions nocturnes, donc à aller voir, à essayer de rentrer dans les lieux. S'il y avait des alarmes, il va falloir revenir pour essayer de désactiver les alarmes. Donc souvent, en fait, ça nous prend plusieurs missions en fait, à faire. Après, il faut penser le moment de la planque. La planque, à cette époque-là, nous, en gros, dans la loi, quand tu peux prouver que tu es là depuis plus de 48 heures dans un logement dans lequel personne n'est domicilié, de fait, c'est considéré comme ton logement. Donc nous, ce qu'on fait, du coup, c'est rentrer dans le lieu et commencer à produire des preuves du fait qu'on est là depuis tel temps. Et la phase de la planque, moi, c'est toujours ce que j'ai détesté. J'ai détester faire ça. Il faut s'imaginer, tu te retrouves pendant 48 heures dans un lieu sans eau, sans électricité, à devoir planquer avec potentiellement les flics qui arrivent à n'importe quel moment. Donc si t'es quelqu'un d'angoissé comme moi, et actuellement ça t'angoisse encore plus, quoi. C'est une situation qui est pas très très agréable. Donc moi j'ai toujours détesté faire ça, tout comme les missions nocturnes, j'ai souvent détesté faire ça, je suis pas le roi des courageux. En fait, c'est bien parce que tu te retrouves à pouvoir avoir le lieu juste pour toi et pouvoir explorer. Et tu peux aussi commencer à rêver dans le sens où on ouvre des squats d'hébergement, mais on ouvre aussi des squats qui ont pour but de pallier à des besoins liés à l'hébergement. Par exemple, quand on a ouvert l'espace communal de la Guillotière, c'était un lieu d'organisation contre la gentrification du quartier, dans lequel on avait pour but de créer une sorte de centre social autogéré. Et donc du coup, quand on a fait cette planque, en fait, on rêvait de fou. Enfin, c'était une des meilleures planques de ma vie, quoi, parce que vraiment, pour le coup, là, on pouvait explorer complètement tous les lieux. Il y avait encore plein d'objets, le lieu était vide depuis plus de 10 ans, tu vois, donc il y avait encore plein d'objets, c'était une ancienne cave à vin, donc on trouvait des bouteilles d'alcool, c'était ouf, mais surtout, en fait, voilà, on voyait tous les espaces et on se disait, putain, on pourrait faire ça ici, on pourrait faire ça ici, on pourrait faire ça ici, et ça, c'est assez magique. Après, ce que tu ressens, c'est, moi, en tout cas, ce que je ressens à ce moment-là, c'est, même si ça me plaît pas, c'est un peu la raison que j'ai de vivre à ce moment-là, quoi, dans le sens où, j'y dédie ma vie, je sais pas, il y a un truc un peu de normalité, de genre c'est ce qu'on doit faire, quoi. Genre, c'est ce que je ressens à ce moment-là. Et des fois j'ai peur, et des fois on se marre, et des fois c'est juste trop long.
Claro que no somos una pompa funebre.
Bien sûr que nous ne sommes pas une pompe funèbre.
A pesar de todas las lágrimas,
malgré toutes les larmes que nous avons bues, nous sommes avec la joie de construire le nouveau.
Y gozamos del día,
et on profite du jour, de la nuit,
et
même de la fatigue, pour aller chercher les rires dans les vents hauts. On se sert du droit à la joie, de rencontrer l'amour dans les terres lointaines, de nous sentir fiers d'avoir trouvé des compagnons, de pouvoir partager le pain, la douleur et un lit. À la fin, le collectif a commencé un petit peu à s'effriter. On a été de moins en moins investis dedans. Il y a des personnes qui sont parties, etc. Disons que j'ai jamais été dans une précarité telle que vivre en squat ne soit pas une question. Je suis venu vivre en squat et participer à tout ça parce que je voulais proposer des hébergements pour des personnes en situation d'exil. Je pense qu'il y a aussi, c'est le paradoxe du travail social de manière générale, hein, c'est que face à un système qui crée des pauvres à longueur de temps, tu as beau essayer de sortir des gens de situations compliquées, en fait, le temps que tu en sortes un, il y en a 10 qui sont déjà tombés, en fait. Tu vois, il y a une sorte de mythe de Sisyphe, un peu, tu vois, de toujours revenir et remonter cette colline avec ta pierre et puis en fait retomber quoi. En fait c'est tout le temps ça. C'était un peu ce cycle infernal qui m'a un peu fatigué aussi un peu à un moment. À la fin de la villa, je continuais encore à participer à des ouvertures avec des copains ou des trucs comme ça. Enfin, je te dis, ça a été une longue transition. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à plus vouloir vivre à Lyon, retourner un peu plus de là où je viens, dans le sud, quoi. Et ensuite, voilà, j'ai débarqué à Marseille. J'ai quelques copains squatteurs qui ont débarqué à Marseille. J'ai continué un petit peu, des fois, à les accompagner sur des missions, des trucs comme ça. Mais tu vois, très progressivement, voilà, j'ai encore des copains qui vivent en squat et qui font ça. Mais c'est plus ma vie, quoi. Même si nous sommes nés pour être heureux, on se voit entouré de tristesse et de problèmes, on fuit comme des profuges, on observe comment nous naissent les rides sur le front, et on devient petit à petit sérieux. Mais toujours, toujours nous suit notre rire, qui reste bien accroché à nos talons. Et parfois, on sait partir dans des grands éclats et être heureux dans les nuits les plus sombres et les plus fermées. Parce que nous sommes construits d'une très grande espérance, d'un très grand optimisme qui nous permet de rester debout. Et on sait très bien que rien ne peut passer qui nous arrêtera parce que nous sommes des graines et aussi l'habitation d'un grand sourire intime qui un jour va exploser très bientôt au visage de tous. Claro que no somos una pompa fúnebre, de Gioconda Belli. J'ai l'impression que ça représente bien un peu l'état d'esprit, je pense, qu'on pouvait avoir un peu à ce moment-là. Un peu rêveur, un peu envie de changer les choses, et en même temps, il y avait quand même beaucoup de joie en 12 ans. Aujourd'hui, je vis dans une maison à Saint-Denis, juste à côté des Francs-Moisins. C'est une grande maison où on vit à trois. C'est encore une maison à la limite de l'insalubrité sur certains points, en tout cas sur la limite de ce qui est légalement possible de louer. Mais j'adore. Je vis avec deux personnes que j'aime beaucoup. Et c'est un peu une forme un peu de cocon. Maintenant, il n'y a aucune... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vivait à la villa. Je veux dire... On s'organise sur rien d'autre que savoir qui va sortir les poubelles et qui va faire le ménage. Mais c'est bien aussi, c'est des temps un peu plus calmes. C'est une autre période de ma vie aussi. Aujourd'hui, là, je me forme plus dans le théâtre, etc. Je vis dans une ville que j'aime pas spécialement. J'aime pas spécialement la région parisienne. Je le fais parce que j'ai envie de prendre ce temps complet de formation, etc. Mon but, c'est de revenir chez moi, dans le sud. Donc, je pense que j'aimerais beaucoup... créer une compagnie et avec lequel on est un endroit de vie commune et de création commune. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, il faut des projets concrets. Ce qui a fait que la villa, ça tenait, c'est parce qu'on avait un projet concret à un moment. À partir du moment où le projet a été moins concret, ça tenait plus, tu vois. En fait, j'aime bien les collectifs qui soient suffisamment gros pour que tu puisses te dissoudre un petit peu dedans à des moments. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime bien vivre... là, tu vois, je vis en coloc maintenant, on est trois. Moi, je crois que ce que je préfère, c'est quand on vit à 10. En fait, je ressens une immense tristesse à pas mal de moments. Parce que tu vois, de cette époque-là, y a quand même pas mal de gens qui sont morts, qui sont suicidés, qui sont morts de overdose. On a un copain aussi qui est mort dans un commissariat. On est sur son sens assez obscur. Une forme de nostalgie aussi à des moments. Dans le sens où d'avoir vécu aussi longtemps un peu en dehors, entre guillemets, du monde normal, même si... Voilà, ça, c'est pas du tout un jugement de valeur là-dessus, parce que ça a du bon, mais en tout cas de la norme, etc. Bah, ça t'éloigne un petit peu aussi à des moments, tu vois, c'est-à-dire que pas mal de choses où c'est bizarre de revenir. Et un truc que je ressens des fois, tu vois, c'est quand je me retrouve dans d'autres milieux, enfin notamment là, en étant dans une école de théâtre privée, à Paris ou quoi que ce soit, je me rends compte des fois un peu du décalage qu'il peut y avoir en termes... de vécu et en ça c'est pas non plus un jugement de valeur, je gradue pas du tout, mais genre en mode de sensibilité que ça crée, tu vois ce que je veux dire. C'est ouf la capacité de l'être humain, je trouve, à s'habituer à l'horreur, quoi, tu vois, à s'habituer aux choses, des choses affreuses, parce que tu vois, on en a vu des choses affreuses aussi en squat. Enfin, il y a un fantasme en tout cas de ce que la marge te permet en termes d'expérience de vie absolument unique. Je pense qu'il y a un truc de démarcation aussi vis-à-vis des autres quand t'es jeune, où t'as envie, tu vois, genre en mode de tu cherches ton identité et t'as envie de pas être comme les autres. Aujourd'hui, on... plutôt l'inverse. Mmh. Je ressens souvent un sentiment d'illégitimité. Comme je te dis, moi j'ai jamais été un grand courageux, j'ai jamais été parmi les gens qui étaient très très bons en ouverture. Tu vois, t'avais des gens, Seb, cette équipe-là, ils étaient très très forts. Enfin, tu vois, genre ils avaient une expérience, un truc, etc. Donc je me sens souvent illégitime. On a vécu quelque chose que je trouve assez exceptionnel. Je pense que j'avais carrément trouvé ma famille, après une famille très dysfonctionnelle à pas mal d'égards. Donc je repense à ça, je repense aux magnifiques personnes que j'ai rencontrées dans ce milieu-là, certaines qui sont décédées. Je pense souvent à Flo. Flo qui était une personne pleine de vie, qui avait une maladie génétique, dégénérative, une sorte de sclérose en plaques, mais c'était pas exactement ça. Et qui est mort, enfin qui a fini par se foutre en l'air, heureusement il a réussi à le faire. Parce que c'était plus une vie pour lui, mais voilà, je pense à tout ça. Je pense aux souvenirs magnifiques que j'ai vécu là-bas et sans illusion sur le fait que c'est le passé. Mon passé, notre passé.
C'était Vivre en squat, partager le pain, la douleur et un lit avec Théo Vercher, un podcast de Zoé Van Aratt. Mixage Jean-Christophe Galen, Centre universitaire d'enseignement du journalisme.